Radio Kapi.
Le journal Blaise Chindan.
Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. La société civile de Beni appelle la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas répondre aux appels à des manifestations violentes lancées ces derniers jours dans cette ville, chef-lieu du Nord Kivu. À Washington, la première ministre Judith Suminwa salue l'attention du président américain Donald Trump à la situation sécuritaire dans l'Est. C'était hier à la première édition du Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Luc Loutala, coordonnateur national de la CIMOCEL, est l'invité de ce journal. Il revient sur les observations des organisations de la société civile autour du contexte post-électoral en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bon après-midi à tous. La société civile de Beni appelle la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas répondre aux appels à des manifestations violentes lancées ces derniers jours dans cette ville, chef-lieu du Nord Kivu. Depuis 3 jours, des messages circulent sur les réseaux sociaux incitant des jeunes à manifester violemment et à s'en prendre à l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN ainsi qu'à certaines organisations internationales pour dénoncer l'insécurité persistante dans la région. Selon la société civile, ces actions ne sont ni citoyennes ni constructives et leurs organisateurs sont invités à y renoncer. Pépin Kavota, président de la société civile de Beni, s'exprime au micro de Martial Papimukeba.
En appelant à des manifestations violentes, cela n'est pas les caractéristiques de la société civile. Certaines personnes organisatrices peuvent se dire en collaboration avec la coordination de la société civile, mais lorsque déjà il y a des violations des droits de l'homme, il y a des barricades, la société civile ne peut pas s'approprier cette activité. Nous sommes un groupe de pression non violent. L'appel que je peux donner au niveau des éléments de l'ordre, lorsque l'ordre public est troublé dans telle ou telle entité, en rétablissant l'ordre public, les éléments de l'ordre ne peuvent pas user des armes létales. Je demande à toutes les personnes qui ont appelé à des manifestations de cesser avec cet appel parce que ce ne sont pas des actions citoyennes. Toute personne devrait vaquer à ses occupations.
Restons dans la région pour parler de ce triste anniversaire. Ce 15 octobre 2025 marque le 11e anniversaire du début des tueries de civils dans la ville de Beni au Nord Kivu. Ce soir-là, des combattants des ADF avaient mené une incursion dans le quartier Ngadi en périphérie de la commune de Rwenzori, tuant une trentaine de civils dans leurs habitations. Depuis cette date, plusieurs milliers de personnes ont été tuées ou enlevées et de nombreux villages, écoles et structures sanitaires incendiés dans les territoires de Beni et Lubero ainsi qu'en Ituri par les ADF. Martial Papimukeba pour les détails.
11 ans après la première attaque des ADF dans la ville de Beni, la société civile locale dénonce une menace oubliée mais toujours persistante qui s'est même étendue au territoire de Lubero et à la province voisine de l'Ituri. Pépé Kavota est son président.
La guerre des ADF, c'est comme si c'est une histoire très oubliée. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, faut reconstruire les villages détruits par les ADF pour le retour de la population.
Pour sa part, Maître Paulé Maliro, avocat des victimes des tueries des ADF, appelle à une implication de la justice internationale pour la réparation des préjudices subis.
À ville de Beni territoire, les massacres continuent. Mais on n'a pas la vraie vérité. Oh, la population en a besoin. Parce que la vérité va découcher la justice. Et la justice va mener la réparation. Nous sommes en train de solliciter que la justice internationale soit un appui de taille sur la justice congolaise.
des messes d'action des grâces ont été organisées à travers la ville pour honorer la mémoire des victimes. Béni, Martial Papi Mokeba, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus ce mercredi dans plusieurs villages du groupement Bukombo. C'est en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Plusieurs sources locales parlent de combats opposant l'AFC M23 au Wazalendo du collectif des mouvements pour les changements, force de défense du peuple CMC-FDP. Elle déplore que ces affrontements, à conséquences lourdes sur les populations civiles, se poursuivent. Ce, malgré la signature, mardi à Doha, de l'accord sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu permanent entre le gouvernement et l'AFC M23. Des détails avec vous, Ronéline Tibonera.
Ça sera pratiquement le 10e jour des combats opposant l'AFC M23 au combattant CMC Nyatura de Dominique Ndaruhutse dans la chefferie de Bwito. Ce mercredi, ce sont des tirs d'armes lourdes et légères qui ont été entendus toute la matinée dans le village de Machango et Karambi en groupement Bukombo. Des sources civiles dressent un bilan d'au moins 7 personnes, dont 2 femmes qui auraient été tuées dans ces combats. Près de 10 autres femmes ont été violées et plus d'un quart des maisons du village Machango incendiées. Ces bilans s'ajoutent à au moins 39 personnes tuées il y a plus d'une semaine dans le groupement voisin de Tongo et Bambo, respectivement dans les villages de Chirumba et Kagango. Selon les sources civiles dans la zone, ces tueries et exactions auraient été perpétrées lors des opérations de représailles des rebelles AFC M23. Cette escalade de violence dans cette zone dégrade davantage la situation humanitaire, déplore nos sources. Pour elles, des dizaines de villages de Bukombo, Bambo et Tongo sont à présent vidés de leurs habitants. Ces déplacés sont localisés à Bambo Centre, Katsiru, Murimbi et Bukombo, alors que d'autres ont été accueillis au sein de l'Institut Birambizo et d'autres en brousse. Ces déplacés, aussi bien les familles qui les accueillent, vivent dans des situations difficiles et sont démunis de tout. C'est notamment le fait de n'avoir plus accès à leurs champs de culture depuis plusieurs semaines par peur d'éventuelles représailles de la part des belligérants, les prenant pour des collaborateurs de Wazalendo ou des FDLR.
Au sud Kivu voisin, un incendie d'origine non clairement élucidée a embrasé l'usine de production d'or de Twangiza à Luinjwa dans le territoire de Mwenga. Cette unité de production appartenant à la société Twangiza Mining, mais qui avait déjà suspendu la production avant l'occupation de Luinjwa par l'AFC M23 en mai 2025. Certaines sources sur place parlent des bombardements aériens largués sur les sites depuis très tôt ce matin. Les installations de la société minière ont été sérieusement endommagées, comme en témoigne cette dame contactée sur place. Elle préfère s'exprimer sous anonymat.
L'usine de Twangiza Mining se trouvant dans la chefferie de Luinjwa, groupement de Luchiga, a été bombardée par le drone aujourd'hui, 15 octobre 2025, surtout à 3h30. Signalons que c'est le M23 à Fès avec quelques anciens travailleurs qui chapeautaient déjà les travaux de minerais dans cette usine. Jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune information sur la perte en vie humaine, mais on signale des dégâts matériels causés par le bombardement de ces drones.
Les maisons de particuliers ne sont pas touchées. C'est l'usine celle qui est touchée. Mais nous signalons qu'il y a un déplacement massif de la population fuyant la pollution de ces mauvais gaz.
Le forum RDC-USA incarne la volonté partagée des deux nations de bâtir un partenariat économique durable, équitable et mutuellement bénéfique. Celui-ci est fondé sur la confiance, la transparence et la complémentarité des intérêts. Déclaration de la première ministre Judith Suminwa hier mardi à la première édition du forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique à Washington. Elle a également salué l'attention accordée par le président américain Donald Trump à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Judith Suminwa a présenté la RDC avec sa population estimée à plus de 100 millions d'habitants comme un pays avec une géographie unique et un potentiel naturel exceptionnel. Elle s'est positionnant ainsi comme un partenaire stratégique pour les États-Unis d'Amérique. On écoute Judith Suminwa dans cet extrait proposé par Alain Rong.
Le rétablissement de la paix constituera le socle sur lequel nous pourrons consolider les progrès déjà accomplis, accélérer le processus amorcé et permettre à la République démocratique du Congo d'accomplir sa vocation de moteur de stabilité et de développement pour l'ensemble du continent africain. La poursuite des actions menées dans le cadre de notre vision pour faire éclore notre potentiel repose sur trois priorités majeures. Premièrement, assurer la stabilité macroéconomique et renforcer la gouvernance transparente, condition indispensable à la crédibilité et à la soutenabilité de nos politiques publiques. Deuxièmement, valoriser durablement les ressources naturelles de la nation afin d'en faire un véritable levier de prospérité partagée dans le respect des principes de responsabilité et de durabilité.
Restons au pays de l'oncle Sam, où le ministre du Commerce extérieur invite les investisseurs américains à rejoindre le projet du corridor de Lobito sous forme d'un programme intégré qui aligne la transformation locale des minerais, les infrastructures, l'énergie, le transport, l'agriculture, le commerce et le développement des compétences pour le bien-être des populations de la RDC, de l'Angola et de la Zambie. Julien Paluku a lancé cet appel hier, mardi, à Washington, à l'occasion de la première édition du forum RDC-USA. Ce forum qui réunit les investisseurs américains, le ministre sectoriel, quelques gouverneurs des provinces, les chefs d'entreprises publiques et privées de la RDC et le gouverneur de la Banque centrale du Congo vise à consolider une relation stratégique et structurante entre la RDC et les États-Unis d'Amérique en attirant les investissements américains vers la RDC. On écoute Julien Paluku Kaonga dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Les efforts que nous faisons sous les leadership du président de la République, c'est d'améliorer davantage la perception sur la RDC. Parce qu'on connaît très mal. Quand on parle de la RDC, tout le monde pense que c'est seulement la guerre. Alors qu'il y a des efforts qui sont faits pour qu'on puisse évacuer cet obstacle-là qui est la guerre. Mais à côté de cela, il y a des opportunités d'investissement qui peuvent intéresser tout le monde. Vous savez que depuis 1960, et même bien avant, la RDC a aidé à améliorer la puissance américaine en lui dotant des capacités d'avoir une bombe, la première bombe atomique, qui a aidé à faire que la deuxième guerre se termine. Lorsqu'on a bombardé Hiroshima et Nagasaki, les gens ont oublié. C'est par la RDC. Donc on est tenu à rappeler aux États-Unis que de la même manière qu'on lui a doté de cette puissance, eh bien, il faut un retour pour que la RDC développe une coopération, cette fois-ci gagnant-gagnante. Parce que demain, le monde tel qu'il est en train de bouger, eh bien, si les États-Unis ne font pas attention, il y a des partenaires qui vont monter en puissance. Or, avec la technologie actuelle, avec l'industrie américaine, avec l'industrie militaire, la RDC dispose de solutions pour renforcer la puissance américaine.
Ici au pays, parlons de l'appréciation du franc congolais. La coalition Lamuka appelle le ministre de l'économie nationale à envoyer ses inspecteurs sur le terrain pour obliger les agents économiques véreux à baisser les prix. Dans une déclaration faite ce mercredi à Kinshasa, cette plateforme de l'opposition de Martin Fayulu Madidi recommande également à la Banque centrale du Congo, en tant qu'autorité monétaire, de garantir la régularité du marché, la protection du consommateur et de veiller sur l'application stricte du taux d'échange officiel. On écoute Prince Epenge, porte-parole de Lamuka, dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
En homme d'État, nous voyons l'intérêt supérieur de nos populations qui ont toujours appelé à la baisse du taux des dollars. La valorisation de la monnaie nationale telle que constatée sur les marchés est une bonne chose. Cependant, les prix des biens et services sont toujours ou presque très élevés. Il y a une forme de laxisme et de laisser aller du ministère de l'économie qui devrait veiller à ce que les prix des biens et services baissent réellement et proportionnellement à la baisse du dollar. Alors qu'en toute logique, nos populations devraient gagner en pouvoir d'achat, mais c'est le contraire qui est vérifié sur les marchés. Que la BCC établisse et communique les circuits ou bureaux d'échange officiels dans tout le pays pour drainer circonstanciellement les populations afin d'éviter la spéculation et l'application du taux à géométrie variable.
Dans la province du Maniema, après plus de 15 mois d'arrêt des travaux à la place dite Sonaïdrok, au croisement du boulevard Joseph Kabila et l'avenue du 4 janvier, les travaux ont repris ce mardi 14 octobre, et cela avec le financement du gouvernement provincial. Ces travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Florence Kizalunga, reportage.
Depuis l'affaissement de la chaussée le 12 décembre 2022, l'espace dit Sona Hydrock constitue un danger public. À la reprise de ces travaux, le directeur provincial de l'OVD rassure la population tout en évoquant quelques défis. Ghislain Tambwe Mugalou.
Sur ce qu'on a fait, nous allons rembler le terrain et remettre la chaussée comme c'était avant. Le grand défi, c'est seulement nous n'avons pas de matériel de terrassement ici à Kindu. Il n'y a pas des entreprises où l'OVD peut courir pour louer les matériels. Et le financement qu'on vient de recevoir maintenant, c'est pendant la saison des pluies. C'est ce qui peut bloquer un peu le bon déroulement de nos travaux. Il pleut abondamment.
La population n'attend que la réhabilitation de cet endroit à Kanda Bwamwini.
C'est quelque chose qui a été attendu, ça fait longtemps. Et comme ça reprend aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction et de joie pour toute la population de la ville de Kindu. Ce que nous pouvons peut-être demander à l'OVD d'avoir la conscience pour utiliser les matériels et matériaux en bon père des familles afin que les travaux touchent à sa fin.
Ce financement du gouvernement provincial est de 948 000 dollars américains. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Il s'appelle Michael Randrianirina et a été invité mardi 14 octobre par la Haute Cour constitutionnelle malgache à exercer les fonctions de chef de l'État à la suite d'un constat des vacances du pouvoir. Étant gouverneur d'une région du sud de Madagascar, ce colonel était une voix critique du régime d'Andry Rajoelina.
L'invité.
L'invité de la rédaction est Luc Loutala, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL. Il nous explique les observations faites par des organisations de la société civile du domaine électoral, de l'éducation civique et des droits humains en RDC sur les contextes post-électoraux au pays. Luc Loutala s'entretient avec Grace Hamzati.
Luc Loutala, bonjour.
Bonjour, monsieur Grace.
Dans votre déclaration, vous dites que la situation générale du pays n'est pas bonne après les élections de 2023. Qu'est-ce que vous avez pu constater pour dégager cette conclusion?
Nous sommes la plupart des organisations du domaine électoral, mais auxquelles s'est associée la Commission nationale des droits humains ainsi que nombreuses organisations des droits humains et aussi d'éducation civique électorale. À 21 mois après les élections, il était important que nous puissions nous rendre compte de l'efficacité du fonctionnement, de l'état des fonctionnements des institutions et de l'état du pays sur plusieurs plans. Et pour nous, il était question de faire le point, d'examiner globalement la situation telle qu'elle est, et étant en situation post-électorale, de nous poser la question, est-ce que les élections ont débouché à des institutions qui sont redevables et qui font le travail comme on doit s'y attendre?
Et l'observation n'a pas répondu à vos attentes?
Il faut dire, sur les différents plans que nous avons observés, les indicateurs sont plus que dramatique et alarmant. On a l'impression d'avoir un pays qui échappe totalement aux acteurs qui assument la gouvernance. Je vais donner quelques tendances. Hein. Vous savez que dans les grandes villes, on a non seulement les problèmes d'embouteillage. Kinshasa perd plus de 3 milliards de dollars par an par suite d'embouteillage, avec tout ce que cela a comme impact sur la santé des populations. Vous savez que lorsque quelqu'un doit quitter Upen pour arriver en ville, il met autant de temps que quelqu'un qui quitte Kinshasa pour aller en Égypte. Et ça veut dire l'opérateur économique, en une journée, va perdre 4 heures du temps au lieu de travailler les 4 heures du temps. Et vous savez que le temps de travail en une journée, c'est 8 heures. Déjà, si quelqu'un perd 4 heures de temps sur les 8 heures, le rendement est faible. Les affaires sont paralysées. Le transport de personnes, de biens, des marchandises est complètement paralysé. Et tout cela a un impact sur l'économie, sur le fonctionnement de l'économie. Il faudrait ajouter à ça des phénomènes aggravants tels que le problème de l'électricité, le problème d'Internet. Et c'est un phénomène qui est en train de s'étendre dans les grandes villes, Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, même si à l'intérieur, c'est beaucoup moins. Mais les chiffres sont assez formels. Sur Kinshasa, on a eu une perte annuelle de 3 milliards de dollars. Et ça, c'est encore des chiffres qui sont totalement officiels. Mais lorsque vous regardez aussi toujours sur le plan social et humanitaire, depuis 2023, on a au moins 1 600 000 nouveaux déplacés internes. Et en termes de l'exode rural, vous avez autour de 43% d'exode rural de 2023 à ce jour. Lorsqu'on regarde le plan économique, il y a cette histoire de baisse artificielle du taux d'échange qui est en train de faire des ravages et qui manque totalement des mesures d'accompagnement. Les agents de l'État sont en précarité absolue, sans oublier que l'impunité et la mauvaise gestion des finances publiques sont signalées aussi à titre d'exemple et de manière tout à fait partielle. Si on prend depuis 2023 à ce jour, des dossiers qui sont indexés des détournements de fonds voisinent autour de 1,669,900,000 $, ce qui est énorme. On pourrait aller plus loin à le contexte sécuritaire où on a un grand pan du pays qui est occupé et ici à Kinshasa, on a tendance à trouver que la situation est tout à fait normale. Donc, on est là vraiment sur une situation qui interpelle.
Quelles sont les recommandations que vous formulez pour que les attentes du peuple congolais soient au rendez-vous?
La première recommandation est adressée au chef de l'État. D'abord, c'est de tout mettre en œuvre pour la réunification du pays. Le pays est en train de partir en morceaux et on demande au chef de l'État d'instruire le gouvernement et les différentes institutions qui sont un peu en train de jouer au théâtre. Il est important qu'ils les instruisent et de jouer leur rôle régalien qui est celui d'assurer la défense du pays ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens, de travailler pour la réponse des besoins de la population. Il y a des recommandations phares comme celle d'organiser les états généraux de notre démocratie. Il est important que nous puissions nous questionner parce que le mal démocratie, il nous semble qu'il soit la cause majeure de la situation que nous vivons.
Luc Lutala, je vous remercie.
Merci à vous, Monsieur Grasse.
C'était notre invité Luc Lutala, coordonnateur national de la CIMONCEL, qui s'entretenait avec Grasse Hamzati. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal, coordonnée par Élisée Chikota-Chivueta, supervisée par Alain Irung. Alain Goy, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.